Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Cyrielle Richard, on parle de TDAH, de l'enfance à l'âge adulte. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène de son sujet le bon usage de la colère. Notre collaboratrice Catherine Stassin apporte sa chronique « Comment vas-tu bébé? ». On commence en chanson avec Evelyne Brochu, la chanson s'intitule « Maintenant ou jamais ». Bienvenue à Folie douce.
Vous êtes branché sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
J'accueille maintenant mon invité, Cyrielle Richard. Bonjour Cyrielle et bienvenue à Folie douce encore une fois.
Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau.
Ben, ça nous fait plaisir. Tu avais participé à l'émission il y a quelques temps, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. J'aimerais que tu fasses un peu une historique parce que tu es originaire de France et tu es arrivé ici au Québec. Tu es intéressé à la santé mentale, mais parle-nous donc un peu de ton parcours pour arriver ici.
Oui, alors effectivement, je viens de France, ça, je ne peux pas trop le cacher, on va dire, mon accent me trahit. Donc moi je suis psychologue de formation, j'ai une spécialité en neuropsychologie et en thérapie cognitive et comportementale. J'ai travaillé une dizaine d'années en France, donc un peu partout, je dirais, en hôpital, mais aussi j'ai travaillé dans des structures privées. Et puis j'ai notamment travaillé avec des adultes, des enfants, des personnes âgées. Quand je travaillais justement en psychiatrie, et c'était ça ça un peu qui nous avait amené à nous rencontrer la toute première fois. Je travaillais beaucoup avec des personnes qui souffraient du trouble du spectre de la schizophrénie. Et donc, du coup, ce qui m'avait amené à m'interroger beaucoup là-dessus, à travailler et donc à faire un livre, justement, sur la paranoïa et la schizophrénie paranoïde. Donc, comme je disais, c'était l'objet de notre toute première rencontre. Après, avant de partir de France, j'ai travaillé aussi en structure avec des enfants, des adolescents qui avaient des troubles du neurodéveloppement. Et puis, je suis arrivée finalement ici au Québec il y a 2 ans. Donc, je suis installée sur Montréal depuis 2 ans maintenant. Et donc, j'ai fait mon parcours d'équivalence. Donc là, je suis membre maintenant régulière de l'Ordre des psychologues du Québec.
Ce qui n'était pas le cas la dernière fois.
J'étais encore candidate à l'équivalence à ce moment-là.
Ouais.
Et donc, du coup, je travaille en clinique privée, essentiellement avec des adultes. Alors, beaucoup qui présentent d'abord des troubles anxieux, mais également des adultes qui présentent un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
On l'a peut-être abordé la dernière fois, mais est-ce que tu trouves, tu connais certainement le milieu aussi de la psychiatrie, de la psychologie, tout ça en France, est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec le Québec à ta connaissance?
Ouais? Quelques-unes. Alors après, j'ai envie de dire maintenant que ça fait 2 ans que je suis là, je vois qu'on fait un peu... On affronte un peu les mêmes challenges, j'ai envie de dire, dans le sens de la pénurie, notamment au niveau des professionnels et tout ça. Après, pour connaître un petit peu, même beaucoup, le système français et puis là, le système québécois, j'ai envie de dire qu'on est bâti aussi sur d'autres approches et d'autres pensées, dans le sens où j'ai le sentiment qu'ici, on est plus ouvert justement à une approche qui soit tournée vers la cité, les citoyens, et finalement, l'hospitalisation arrive un petit peu, en bout de course, tandis qu'en France, on a l'hospitalisation encore beaucoup plus rapide, avec ce passé beaucoup plus institutionnalisé. J'ai l'impression qu'ici, là, on est beaucoup plus tourné vers le communautaire et vers justement les soins dans auprès de la communauté, auprès des citoyens, dans leur environnement de vie.
Ouais. La personne est souvent au centre, de plus en plus, au centre de ces professionnels. Tu as participé à une rédaction, c'est un peu pour ça aussi qu'on t'invite cette fois-ci. Tu as participé à la rédaction d'un livre collectif, en fait, qui porte sur le TDAH de l'enfance et à l'âge adulte aussi, parce qu'on parle souvent de TDAH au niveau des enfants, mais peut-être tu vas démystifier auprès de nos auditeurs ce que c'est, parce qu'effectivement, on entend parler de ça, puis on a l'impression que ce diagnostic-là n'existait pas il y a 30 ans, mais on n'arrête pas de parler de ça maintenant.
Ouais.
Autant chez les adultes, il y en a même qui reçoivent des diagnostics des fois plus vieux, en étant plus vieux.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta participation? Puis évidemment, on va élaborer sur cette problématique-là.
Oui, alors effectivement, c'est un ouvrage collectif. Donc, ça a été en fait coordonné, entre autres, par Stéphanie Van Valéjam-Maury et puis sa consœur également, donc qui sont toutes les deux impliquées en tant que chercheuses, maîtres de conférences, en France. Et puis, l'idée un peu fondatrice du livre, c'était justement de pouvoir parler des aspects d'évaluation, mais aussi des aspects psychothérapiques pour les enfants, mais également pour les adultes. Alors, je rebondis un petit peu sur, effectivement, la pensée. C'est vrai que quand on parle TDAH, bien souvent, on va penser à des enfants, éventuellement des adolescents. Et je vais pousser un petit peu plus loin en disant que bien souvent, on pense à des garçons aussi.
Ouais, ouais.
C'est une pensée qui, effectivement, est assez répandue, mais qui, finalement, n'est que une partie visible, de toute la constellation du TDAH. Déjà, il faut savoir que c'est un trouble qui touche également les filles. Alors, on parlait des diagnostics tardifs. C'est vrai que les filles et les femmes sont bien souvent diagnostiquées plus tard que les garçons, souvent parce que justement, leur trouble ne va pas s'exprimer pareil. Et alors, le TDAH, il est connu depuis le 19e siècle, en fait. C'est juste que son appellation a beaucoup changé. Pendant très longtemps, on a parlé d'enfants hyperkinétiques avec cette pensée que c'était des enfants surtout très remuants qui allaient beaucoup s'exprimer au niveau comportemental. Et les troubles justement attentionnels ont été associés un peu plus tard, d'où cette pensée justement d'un enfant qui serait d'abord plutôt hyperactif.
Très turbulent.
C'est ça. Et en fait, bien souvent, ce qui était repéré, effectivement, c'était les garçons parce qu'ils avaient des manifestations qui étaient bien plus exprimées justement dans ce sens comportemental, plutôt que les jeunes filles qui, elles, pouvaient tout autant être hyperactives, mais qui allait avoir une hyperactivité plutôt cognitive, c'est-à-dire tout allait se passer beaucoup au niveau des pensées.
Yeah.
Et pareil, les jeunes filles aussi peuvent avoir beaucoup plus des troubles attentionnels, par exemple, sans forcément que ce soit associé à de l'hyperactivité.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a 3 grands, profils de TDAH. Il y a ceux qui sont plutôt avec un profil inattentifs, ceux qui ont plutôt un profil hyperactif et ceux qui ont une combinaison des deux. Donc, inattention et hyperactivité slash impulsivité. Donc, bien souvent, les jeunes filles vont avoir plutôt ce profil un peu inattentif, ce qui fait que elles peuvent passer inaperçues justement pendant très longtemps. Et puis, bien souvent, il peut y avoir aussi quelques biais où on va se dire, c'est une jeune fille, elle est dans la lune, mais bon, voilà. Elle est un peu inhibée, c'est pas très grave.
Qu'est-ce qui fait que des adultes, parce que les enfants, on peut comprendre, souvent c'est les parents qui vont trouver, ou les professeurs, ou l'environnement de l'enfant qui va dire, il me semble qu'il y aurait peut-être moyen de consulter, mais qu'est-ce qui fait qu'un adulte va comme consulter, ou est-ce que c'est par hasard qu'il apprend qu'il y a un diagnostic de TDAH?
Alors, en fait, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Par exemple, ça peut être l'adulte vient consulter parce qu'il a un de ses enfants qui a reçu le diagnostic et bien souvent, il y a quand même une composante un petit peu familiale. Donc, ce qui fait que s'il y a un membre de la famille qui a un TDAH, il y a quand même de forts risques que d'autres membres de la famille l'aient également. Je pense notamment à des situations où ça peut être, par exemple, des mamans qui viennent pour faire le dépistage justement parce que leur garçon a eu le diagnostic de TDAH et puis soudainement, quand on leur explique ce que vit leur enfant, ça leur parle beaucoup, elles se disent « Ah, mais moi aussi, j'ai vécu la même chose » et ainsi de suite. Une autre chose qui peut aussi expliquer un diagnostic plus tardif, c'est comme je disais, il peut y avoir eu des fausses représentations, notamment pour les générations, j'allais dire comme la mienne, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 80, mais même pour des gens nés dans les années 90, et je ne parle pas de ceux qui sont encore des générations d'avant, où on peut avoir eu tendance justement à négliger certaines manifestations ou à les attribuer à autre chose. Mmh. Donc là, pareil, ça peut être une vraie révélation pour les gens lorsqu'ils reçoivent justement ce diagnostic, parce que soudain, ça va éclairer plein de choses, et peut-être qu'ils s'étaient construits avec une fausse représentation d'eux-mêmes, et là, pour le coup, ça va leur révéler justement plein de choses sur eux. Il y a aussi une autre chose qui pourrait éventuellement expliquer un diagnostic tardif, c'est, comme je disais, parfois quand il y a eu plutôt un profil majoritairement inattentif, ou de l'hyperactivité qui était plutôt cognitive, c'est passé complètement sous les radars parce que justement, on n'est pas dans la tête des gens. Donc, on ne peut pas deviner si la personne elle-même, elle n'a pas forcément conscience qu'elle a ses propres troubles, elle ne peut pas forcément le dire. Et puis après, peut-être qu'aussi, elle est passée inaperçue parce qu'elle a mis en place elle-même des stratégies de compensation, ce qui fait que c'est d'autant plus passé inaperçu, en tout cas dans les petites classes. Oui. Jusqu'au secondaire, voire jusqu'à l'université, parfois, les stratégies de compensation étaient suffisantes pour que, justement, la personne soit pas repérée, quoi.
Oui, d'après ce que tu en sais, est-ce qu'effectivement, on a l'impression qu'on entend plus parler de ça depuis peut-être 10 ans, 20 ans? Mm-hmm. Avant, ça a sûrement existé, tu parlais que ça fait quand même longtemps que... Mais il me semble qu'on ne parlait pas de ça. Est-ce que c'était diagnostiqué quand même ou si c'était plus, on se dit, Les garçons sont turbulents, puis ça va s'annuler, là, les gens vont jouer entre eux, puis ça va... Est-ce que, d'après toi, c'est plus diagnostiqué actuellement?
Je pense qu'il y a une meilleure compréhension, effectivement, qui fait qu'on va être plus attentif. Il y a aussi une meilleure connaissance, je pense, au niveau du grand public également, qui fait que forcément, lorsqu'on sait, on est plus attentif aussi à certaines choses et on a moins tendance à l'attribuer à d'autres points. Okay. Je pense qu'il y a aussi un autre effet, c'est également le fait que les gens sont mieux informés pour eux-mêmes. Ce qui fait que, bien souvent, ça peut arriver que les gens, par exemple, viennent consulter avec cette demande, justement, qu'on puisse faire des investigations dans ce sens-là parce qu'eux-mêmes ont pu lire dessus, se sont reconnus et donc ont une meilleure compréhension également d'eux-mêmes.
Effectivement. Voilà. On parlait tantôt, tu as participé justement au livre qui est lancé mm-hmm. en 2024, donc qui est vraiment tout chaud. Comment il s'intitule, le livre en question?
OK. Alors, c'est les TCCE appliqués au TDAH, de l'enfance à l'âge adulte. Et donc, TCCE pour thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. On va parler justement de ça.
Oui, voilà. Tu as participé donc à un des chapitres, c'est ça? Oui. Est-ce que c'était déjà un sujet qui t'intéressait dans ta pratique ou en tout cas dans tes intérêts ou comment s'est passé l'approche?
Oui, alors moi, je suis sur le chapitre justement sur le dépistage à l'âge adulte, où justement, j'aborde la question justement des personnes qui ont pu passer dans l'enfance sous les radars, justement, et puis qui viennent avec cette demande d'évaluation. Et puis, je parle également des difficultés qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que, justement, thérapeute, évaluateur, éventuellement, parce que, bien souvent, il faut savoir que beaucoup de tests existent. Il y a des auto-questionnaires, il y a des questionnaires, il y a des tests aussi psychométriques. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucun outil qui permette fondamentalement de dire oui ou non par rapport au TDAH. C'est vraiment un faisceau d'indices qui va nous donner l'indication. Et bien souvent, on parle d'un diagnostic clinique dans le sens où il faut être vraiment attentif à des tas de facteurs. Et donc, si les tests peuvent être une aide, on ne peut pas se limiter à eux, évidemment. Après, pour ce qui est justement de la partie sur laquelle j'ai travaillé, alors c'était à la fois un centre d'intérêt qui est né essentiellement des personnes que j'ai pu rencontrer, du travail que je peux faire. Après, c'était pas non plus un intérêt récent, dans le sens où, comme je disais avant de travailler ici, mon dernier poste en France, c'était justement dans un centre qui s'occupait d'enfants qui avaient des troubles du neurodéveloppement, et donc le TDAH en fait partie. Et je dirais bien que la moitié de mon travail consistait essentiellement à faire du partenariat avec les écoles pour justement mettre en place tout ce qui est accommodement. Alors, pour des enfants et des adolescents qui avaient un TDAH, mais pas que, parce qu'il pouvait y en avoir qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, d'autres qui pouvaient avoir un trouble du développement intellectuel, enfin, voilà. Et bien d'autres choses associées.
Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'on sait combien de gens sur la population en pourcentage ou en nombre? Est-ce que c'est connu?
Alors, c'est très, très variable parce que justement, il y a le fait qu'il y ait probablement beaucoup de gens qui ne soient pas dépistés, justement. Ouais. Alors, on estime à peu près qu'il y aurait 1 à 2% des adultes qui auraient un TDAH, d'accord? Et on suppose que parmi les enfants qui ont été diagnostiqués dans l'enfance comme ayant un TDAH, 25% d'entre eux continuent à présenter des troubles à l'âge adulte. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, l'enfant évolue en fonction des aménagements, également de la stimulation dont il a pu bénéficier. Il peut, alors il aura toujours son TDAH, on s'entend, hein, mais il peut justement ne plus montrer certains signes, notamment certains retentissements dans sa vie, qui peuvent être assez invalidants, mais s'il ne les présente plus, du coup, il sort, entre guillemets, des critères diagnostiques.
OK. Donc, c'est ça, c'est quand même, on peut s'en sortir assez bien. On peut le contrôler, en tout cas, c'est comme tu dis. Voilà. Il reste quelques secondes, peut-être rappeler le titre, parce que c'est trouvable.
Le livre,
quel titre il porte déjà?
Donc, c'est les TCCE du TDAH de l'enfance à l'âge adulte.
Et c'est les éditions, on cherche.
Alors, c'est chez Duno en France, donc Elsevier et Masson, et c'est très probablement diffusé au Québec avec Somabec Chenelier.
Bien, c'est génial. Merci beaucoup, Cyrielle, d'avoir fait ce tour dans notre studio. Merci beaucoup, puis bonne continuation.
Eh bien, merci également.
Au revoir. À la prochaine.
Merci.
Au revoir.
Souffle. Respire, laisse-toi aller. Je suis comme toi, je suis déjà tombé. Promets-moi que ce soir, c'est juste pour danser. J'en ai marre d'oursasser, tout ce qui est noir est passé. Des kilos de pensées plein la tête, comme si je perdais le contrôle de mon être. Je veux que mon corps se délivre dans la fête, repensant seulement aux belles choses que j'ai faites. Est-ce que t'y crois? Est-ce que tu le sens dans ta chair, sous ta peau? Fais palpiter ton sang, sur ce son on s'évade. Saute les murs d'Alcatraz, l'emprise est tenace, balayée par ses phrases. Écrasons ce monde où tout paraît noir. Écartons cette ombre qui nous empêche de voir. Incarnons la force de nos plus grands espoirs. Écoutons nos cœurs, recommençons à croire. Écrasons ce monde où tout paraît noir. Écartons cette ombre qui nous empêche de voir. Incarnons la force de nos plus grands espoirs. Écoutons nos cœurs, recommençons à croire. J'ai passé des heures, j'ai passé des mois, essuyé des pleurs et pensé des émois. Pensais que c'était moi, ce reflet sans couleur, qui perdait sa voix, étouffé par son cœur. Aéré dans la ville à la recherche de plaisirs futiles, mais d'optise pour apaiser la hantise, d'affronter un monde chaotique où règne la bêtise, la haine. Alors j'ai crié plus fort, pour qu'on m'entende. J'ai laissé mon corps, pour qu'il puisse me surprendre. Alors j'ai crié plus fort, pour qu'on m'entende. J'ai laissé mon corps pour qu'il puisse me surprendre. Si on était plus humain, ce serait mieux, non? Si on était plus humain, est-ce qu'on serait différent? Des questions qu'on se pose souvent, mais là je m'en tape. Je veux que les mains claquent, que nos voix chantent à l'unisson, que nos cœurs battent jusqu'à sentir des frissons.
Écrasons ce monde où tout paraît noir. Écartons cette ombre qui nous empêche de voir. Incarnons la force de nos plus grands espoirs. Écoutons nos cœurs, recommençons à croire. Écrasons ce monde où tout paraît noir. Écartons cette ombre qui nous empêche de voir. Incarnons la force de nos plus grands espoirs. Écoutons nos cœurs, recommençons à croire. Écrasons ce monde où tout paraît noir. Incarnons la force de nos plus grands espoirs. Écrasons ce monde où tout paraît noir. Écartons cette ombre qui nous empêche de voir. Incarnons la force de nos plus grands espoirs. Écoutons nos cœurs, recommençons à croire. Écrasons ce monde où tout paraît noir. Écartons cette ombre qui nous empêche de voir. Incarnons la force de nos plus grands espoirs. Écoutons nos cœurs, recommençons à croire.
Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
Nous y allons maintenant avec le segment Espresso. Bonjour Pierre.
Salut Yvan.
Ton sujet aujourd'hui, le bon usage de la colère.
Oui, parce que semble-t-il que la colère n'est pas nécessairement une si vilaine chose que ça. Ah bon? J'en ai déjà parlé par le passé. Non, ça fait partie des du spectre, comme on l'appelle, je pense, le spectre des émotions. Il y en a plusieurs, on le sait.
Donc une colère bien placée, c'est peut-être pas mauvais.
Non, certainement pas. Je pense qu'au total, il y a 72 émotions qu'on peut compiler.
Ouais.
Que les psychologues ou les psychiatres ont compilé au fil des années. Alors, j'ai pris ce sujet sur le site internet cairn.info. C'est écrit par un monsieur du nom de Salomon Nazielski. Il est psychologue belge, il est psychothérapeute en pratique privée et il est formateur de psychothérapeutes. Salomon a été un des pionniers de l'analyse transactionnelle en Europe. L'analyse transactionnelle vise à permettre une prise de conscience ainsi qu'une meilleure compréhension de ce qui se joue ici et maintenant dans les relations entre deux personnes et dans les groupes. Alors, ce monsieur Nazielski nous dit « Il existe de nombreuses pseudo-vérités nous incitant à nous écarter de nos sentiments de colère. Des expressions populaires comme « ne nous fâchons pas » ou « la colère est mauvaise conseillère » ou encore « la colère vous aveugle » lui ont donné un statut sulfureux. De nombreux thérapeutes nous encouragent à penser à autre chose, à redevenir zen et à quitter la moindre trace de colère. Ils offrent à cet effet des procédés variés, comme par exemple les calmants, il y a le yoga, il y a la méditation, il y a l'expression émotionnelle et musculaire de la colère, ou encore la promenade et le sport. Moi, je fais plus de la promenade et un peu de sport, mais des calmants, non. pas de yoga ou de méditation non plus. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas être bon.
Tu ne dis pas
que
tu n'en feras jamais.
Non. Alors, M. Nazielski nous dit, on peut comprendre que le sentiment nommé colère soit accusé de tous les maux. Peut-être que nous n'avons pas appris à en faire un bon usage. De façon plus précise, la colère est perçue comme annonciatrice de la violence physique ou verbale, ou à tout le moins de la perte de contrôle. Or, justement, la colère ne devient menaçante que si l'on n'en fait pas l'usage que son existence même requiert, à savoir repérer en quoi le monde n'est pas assez bon pour soi, pas assez aimant, et ensuite mettre en route des conduites destinées à influencer ce monde qui nous entoure afin qu'il redevienne meilleur et plus aimant.
C'est vrai que la colère, on voit souvent ça comme quelque chose qui est spontané, puis mm-hmm. un peu plus fort que la personne. En réalité, c'est comme si ça n'avait pas été contrôlé, mais oui, ça doit être vu autrement.
Ça fait peur parce que ça peut, il peut y avoir de la violence qui sort.
Oui, la colère, c'est jamais positif, en tout cas, dans la majorité des
ça,
fois.
Ça peut être négatif, on va s'entendre pour dire ça.
C'est sûr.
Alors, M. Nazielski nous dit, on se trouve dès lors à laisser la crainte selon laquelle la colère laisse prévoir l'attaque, l'agression et la violence. De même, nous n'incluons pas dans la colère une quelconque intention de nuire, de détruire, d'humilier ou de contraindre. Il n'y a dans le fond aucun danger à se trouver auprès de quelqu'un qui ressent de la colère. Ça, je suis pas sûr de ça. Moi, s'il y avait un lutteur professionnel à côté de moi qui était en colère...
qui est en colère, tassez-vous.
Mais ça, moi, je me tasserais.
Oui, je pense que ça serait un peu plus prudent.
Alors, M. Nazielski nous dit, « Quelques-unes des leçons que nous avons reçues partaient du principe selon lequel notre colère ne serait pas recevable par autrui et qu'il convient donc de s'en détourner. D'où une foule de procédés contribuant lourdement à notre enfermement dans un mode de vie névrotique, tel que ravaler sa colère ou l'étouffer et la décharger. notamment par l'excès de travail ou par une série de comportements compulsifs, d'obsessions continuelles, de nettoyage, de comptage, de rangement, de bourrage des temps libres par des activités culturelles, sportives ou des régimes alimentaires. On y trouve parfois, en outre, l'accumulation d'activités sexuelles, la consommation de drogues diverses, euphorisantes ou excitantes. Les colères rentrées ou rendues inopérantes par un procédé quelconque vont probablement faire leur réapparition dans les sentiments parasites ou dans les jeux psychologiques pendant son déroulement ou à l'issue de celui-ci. De même, les colères restées inutilisées peuvent servir à empoisonner des temps de relation plus ou moins longs par le maintien d'une position existentielle négative. Enfin, dans les groupes et les couples, les colères auxquelles on n'a pas donné la suite constructive qu'elles nécessitent se manifestent indirectement par les silences, les bouderies ou leur contraire apparent, la crainte que l'autre nous échappe et nous tourne le dos. Ainsi, ravaler ces colères peut conduire à l'anxiété, l'insomnie et une mauvaise humeur chronique. Par ailleurs, le détournement de la colère par des manœuvres qui tendent à la détourner de ses cibles de départ sont faciles à repérer dans les choix que nous proposent ou nous imposent les dirigeants d'opinion, les politiciens, les philosophes, les éducateurs, les guides moraux ou religieux de toutes sortes. Si la colère permet de mobiliser l'énergie nécessaire pour faire changer des comportements ou des décisions politiques, par exemple, alors il est logique d'observer des désirs ou des manœuvres aboutissant à détourner les colères les plus légitimes de leur finalité en faveur de catharsis individuelle ou collective. Donnez-leur du pain et des jeux, disait un empereur romain.
Oui, il paraît que ça calme le peuple, ça.
J'imagine. Ouais. De voir des autres qui se tapent, quoi, tu veux dire?
Mais non, mais du pain et des jeux, si t'as du pain pour te nourrir, si t'as du divertissement, spectacle, normalement, les gens, supposément, sont plus calmes.
Sont plus zen, peut-être, ouais. Alors, dans le même esprit, les politiciens et les chefs d'État ont tout intérêt à se montrer aux compétitions de football. Mais j'y reviendrai tantôt.
On va poursuivre le même sujet plus tard à l'Espresso allongé. Merci, Pierre.
La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
C'est le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, ta chronique porte le titre « Comment vas-tu bébé? »
Oui, on va c'est s'intéresser. Bon? C'est bon, j'espère. On va s'intéresser à la santé mentale du bébé.
Ben oui.
Et des jeunes enfants, des enfants en bas âge. Et on va se rendre compte que c'est important qu'ils aient un bon développement, qu'ils aient une bonne santé mentale dès les premières heures et puis aussi dès les 6 premières années de leur vie, idéalement, et on l'espère aussi après. Mais on va voir pourquoi c'est aussi important aussitôt. Le cerveau est très malléable et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour que le cerveau se développe bien, en tout cas au niveau de la santé mentale.
Parce qu'on parle souvent des problématiques après, tu sais, mais c'est vrai que ce qu'on peut faire comme prévention, c'est toujours bien, hein, c'est toujours bienvenu.
On passe souvent des problématiques après en faisant référence à cette période parce que les études prouvent que des enfants en bas âge qui ont eu beaucoup de stress au quotidien ont plus de chances, ont plus de risques de dépression, de tentatives de suicide, de toxicomanie diverses. Donc c'est ça que c'est important évidemment de s'y intéresser et de voir un petit peu, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut faire. Mais il faut d'abord savoir qu'au tout début... quand on compte les 2000 premières journées, là, ça, c'est un calcul un peu grossier. On va dire que pour un bébé, c'est hyper important dans sa vie parce que à ces moments, il va créer tellement de connexions au niveau du cerveau que il y a beaucoup de choses qui sont possibles, il y a beaucoup de choses qui peuvent être rattrapables aussi. Mais on va voir qu'il y a des activités donc qu'on peut faire avec son enfant comme parents soignants ou amis qui vont s'assurer que sa santé mentale se développe bien. Alors, si on commence tout de suite par une activité de base, pour un parent, c'est évidemment s'assurer qu'on ait une bonne relation avec notre bébé, notre enfant en bas âge, on va faire en sorte qu'il y ait une relation saine. C'est-à-dire qu'on va créer un lien. Il faut qu'il y ait un attachement avec le bébé. Donc, ça peut être évidemment en répondant à ses besoins de base, c'est-à-dire qu'il pleure, on va répondre à ses pleurs, on va distinguer ses pleurs et on va répondre de différentes manières à ses pleurs. Quand on voit, ah, il a faim, non, il a peur, ou il a un chagrin, ou d'autres éléments, oui, d'autres émotions de la vie.
Ou il a besoin d'être changé.
Ça, il a besoin de changer, très bonne constatation.
Parce que c'est inconfortable.
Oui. Je l'avais oublié, celle-là.
Donc c'est ça, là,
tout
ça,
à fait, ça pique les fesses. Ouais. Et donc,
mais ça crée un lien avec le parent ou la personne en charge, voilà, de l'enfant. Là.
Oui, l'enfant va se sentir compris. Et il va créer donc un attachement à cette personne qui peut répondre à ses besoins. Donc ça se fait au niveau du parent, évidemment, mais ça peut être les soignants,
ouais,
dans un CPE, évidemment, qui vont établir un bon attachement. Et ça peut réparer aussi, si le parent n'est pas aussi attentif, ça peut grandement aider que des professionnels et des soignants soient attentifs à l'enfant.
Ouais.
Ça peut lui donner ce qu'il n'aurait pas ailleurs, c'est pas...
L'idéal, c'est d'en avoir partout, mais quelquefois...
Que le parent, évidemment, ouais, puisqu'on veut que le parent, père ou mère, ait vraiment cet attachement.
La personne la plus significative, c'est le parent, normalement. Là, mais...
Voilà, c'est le parent.
Ouais.
Maintenant, ça, c'est une chose, c'est cet élément de relationnel. Ensuite, on a aussi un espace. Donc, tout ce qui est physique, on veut qu'on lui procure un espace physique où il se sente en sécurité, où il va se sentir à l'aise, un enfant qui va ramper, qui va être à l'aise, un enfant qui va s'asseoir et on est attentif, ça fait partie aussi de conforter et de le qu'il ça assure d'être un petit peu, avoir un côté explorateur et de poursuivre cette exploration. D'accord ? Donc il y a le côté aussi jeu.
Mmh.
On veut lui apprendre des éléments de la vie par le jeu. Alors ici, on fait très attention, parce que quand je parle de jeu, évidemment, on peut parler de petites figurines, des nounours, des peluches, comme on dit, des hochets qui font du bruit. Mais le jeu, ça peut être aussi regarder des voitures de couleurs différentes qui passent. On ne doit pas avoir un jouet en soi. Donc, on va s'amuser avec son enfant et lui faire comprendre que ça fait aussi partie de la vie. On peut s'amuser, on peut jouer. Maintenant, ici, gros bémol des professionnels, les études le prouvent. Vraiment, on demande absolument qu'il n'y ait pas d'écran, même récréatif, ou même d'apprentissage, avant 3 ans. Et certains vont jusqu'à 5 ans.
Pourtant, il y avait comme une tendance où tout le monde devait mettre,
oui,
des écrans partout. Puis, mais...
Et avec des tablettes spéciales bébés,
ouais,
etc.
Ouais,
mais vraiment, ça les rend passifs. Ce serait un autre sujet, je pourrais une fois partir sur ce sujet-là, mais c'est vraiment important de, si vous n'êtes pas certain, demander aux professionnels autour de vous, aux enseignants, etc. Mais vraiment, ce n'est pas rendre service à votre enfant, et on va voir aussi que pourquoi, lors d'une autre chronique.
C'est mieux de carrément d'avoir une belle présence, puis d'être, c'est ça, dans le fond, c'est le facteur humain, puis d'avoir vraiment des gens... qui font attention à l'enfant. Là,
oui,
qui est
parce
important.
Que c'est le relationnel que l'enfant doit développer, développe son cerveau, et c'est par la relation qu'il développe, par le jeu aussi, mais par la relation humaine. Donc, c'est vraiment fondamental que ces années-là, ils se soient préservés et qu'ils soient aussi dans l'action. Il peut peut-être être passif dans le jeu en disant, oh, regarde, on voit les voitures passer, voilà une rouge, voilà une bleue, etc. On s'entend que ce n'est pas la même passivité. Regardez le regard d'un enfant qui regarde un écran, un enfant en bas âge, c'est assez effrayant l'état dans lequel ils peuvent être. Enfin, chacun fait ses choix.
Il y a certains parents, puis je ne lance pas des accusations, mais il y a certains parents qui servent aussi des appareils comme ça pour un peu comme gardiennage.
Ah parce oui, que, oui, oui, comme babysitting.
Parce qu'ils n'ont pas le temps,
oui.
En même temps, c'est pas très
mais bien. Mais il y a tellement de jeux qu'on peut leur donner pour, plutôt que l'écran. Il y a tellement de jeux. Il ne faut pas grand-chose.
Ils peuvent quand même s'occuper eux-mêmes, mais c'est
ça. On peut simplement donner une bassine avec un peu d'eau au fond, de rien du tout. Vous mettez quelques objets en plastique, c'est parti, le jeu est là.
Et ça développe la créativité, l'imagination, puis tout ça. Là.
L'écran, ça ne va pas aider votre enfant à développer son cerveau et sa bonne santé mentale, en tout cas. Donc, il a besoin de relationnel. Alors, encore une autre situation où on peut aider son enfant à développer une bonne santé mentale, c'est notre gestion du stress. Mmh. Alors, si on montre, par exemple, on s'est disputé avec un conjoint, et si on crie, ou si on claque la porte, ou il n'y a pas une bonne discussion, donc l'enfant est témoin de tout ça, et on ne rétablit pas ce qui s'est passé, l'enfant, et si en plus nous on gère mal notre stress en voulant pas parler, en continuant à dire du gros mot, je ne sais pas, des choses comme ça, c'est sûr que l'enfant, il va apprendre ça. Et il ne va pas apprendre à gérer son propre stress du coup. Il va le faire comme vous, il va copier-coller ce que vous faites. Donc c'est important de discuter avec l'enfant, de dire bah, écoute, papa-maman ou maman-maman ou papa-papa, peu importe.
Ça arrive, c'est des situations.
On s'est disputé. Ouais.
Ça arrive.
Pourquoi ? Il se passe ça, on ne doit pas raconter notre vie.
Ouais.
Et puis voilà, on s'est parlé, mais les gens qui s'aiment, ils se disputent aussi. Mais après, on s'aime quand même, on se fait tous un câlin. Des choses comme ça.
On se pardonne, on rétablit les faits.
Il y a plein de petits trucs, vous pouvez demander ça aux professionnels autour de vous pour savoir comment montrer, en tout cas, comment essayer de bien gérer votre propre stress.
Ça, c'est important pour les enfants, là, c'est ça.
C'est vraiment très important parce qu'eux, ils vont du coup savoir... Au CPE, ils vont aller comment gérer leur propre stress. Si c'est une anxiété, tiens, on me laisse avec une nouvelle éducatrice, etc. Bon, et si on lui explique avant, ben voilà, ça va être nouveau, ça va peut-être pas être facile, mais tu vas y arriver, tu vas bien t'amuser, etc. Si on explique les choses et qu'on lui l'aide à gérer son stress ça va l'aider.
Il va développer lui-même ses propres trucs.
Voilà, on lui donne les outils et l'enfant va arriver à se développer. Dieu sait si c'est important d'arriver à gérer son stress, même comme adulte.
Ouais.
Alors, à partir du moment où vous vous sentez dépassé, vous voyez que ça ne va pas, il y a des colères, ou même il y a des silences, ou il refuse de manger, ou il y a des choses qui vous perturbent, c'est sûr qu'il faut consulter. Hein. Ne laissez pas traîner un enfant en bas âge qui présente des signes de difficulté de gestion de ses émotions. Il faut aller voir quelqu'un, d'accord ? Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que aussi, une étude montre que plus des deux tiers des jeunes adultes qui ont un problème de santé mentale disent que pour eux, ça remonte qu'ils avaient des symptômes à l'enfance, qu'ils se rappellent de certains éléments de situation qui font que, tiens, ça n'allait déjà pas à ce moment-là. Donc, d'où cette importance d'aller gérer ça au plus tôt. Alors, maintenant, évidemment, il y a des choses à faire hein, pour gérer... la santé mentale d'un nourrisson, on va rappeler peut-être un petit peu en conclusion, vite, des éléments, c'est-à-dire vous assurer que vous développez une bonne relation et qu'il développe des relations avec d'autres enfants et d'autres adultes. Hein. Ça ne doit pas être en huis clos, il faut vraiment ouvrir la sphère sociale et aussi le laisser expérimenter, le laisser gérer ses émotions, hein. Pas être dans l'ultra-protection non plus. Il faut qu'il fasse ses expériences.
Il faut l'observer beaucoup, puis il faut voir comment il se débrouille. Mais
d'un enfant à l'autre, ils peuvent être différents, donc vous n'agirez
peut-être
pas...
Plus autonome.
Oui, c'est ça, plus autonome, et l'un peut mieux gérer son stress, même si vous les avez élevés de la même manière, et puis l'autre enfant en moins. Donc c'est à vous un petit peu de jauger cette situation. Il y a une association intéressante qui est l'Association pour la santé mentale des nourrissons que j'ai mis en référence pour les coordonnées, si vous voulez de l'info. Et puis, on dit souvent, il n'est jamais trop tard pour prendre bien soin de sa santé mentale comme adulte, on le sait.
Jamais trop tôt.
Mais là,
non plus.
Voilà, c'est ma phrase que je voulais terminer avec.
Désolé,
ça.
Désolé.
Il n'est jamais trop tôt, tu me voles mon punch, pour s'occuper de la santé mentale de nos enfants. Et des enfants qui vous entourent, parce que dites bien, même si ce n'est pas votre enfant, vous allez peut-être aider un enfant en lui assurant une bonne relation saine, stable, même si ce n'est pas le vôtre, ça l'aidera peut-être plus tard dans son avenir. Il se rappellera de vous.
Oui, c'est peut-être pas un réflexe. Souvent, on observe nos enfants, est-ce qu'ils se développent bien, est-ce qu'ils grandissent bien, est-ce que son poids est correct. On regarde souvent les côtés physiques, mais effectivement, le côté mental, c'est tellement vaste que sans s'alarmer pour rien.
Non, non, mais s'il a la bonne base, ce sera plus facile après.
Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux rajouter? Il reste encore une minute, Catherine.
Alors, c'est sûr que tout ce qui est organisme officiel, il travaille beaucoup dans ce sens-là. Il faut beaucoup de promotion auprès des jeunes enfants en CPE, auprès des familles. Ils font de la prévention, de la promotion. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Si vous voyez des activités, ça peut être intéressant d'aller chercher de l'information supplémentaire pour bien entourer les enfants autour de vous.
Et dans les milieux, évidemment, tu sais, dans le milieu même de CPE, tu parlais tantôt, tu sais, il y a souvent des gens qui peuvent nous référer ou en tout cas peuvent avoir certaines aides là, pour les jeunes là, et à l'école également. On va mettre donc les références, comme tu disais, dans notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été des nôtres.
Et merci, Yvon.
Merci pour ce sujet. Comment vas-tu, bébé? Alors, à Folie douce. À la prochaine.
Bye-bye.
Au revoir.
Toujours pas comment m'aimer sainement, mais je sais qu'en écrivant ça, j'ai de quoi me connaître. Et plus tu te connais, plus tu comprends d'où viennent les saignements. Donc j'ai écrit un album, et je vais sortir un album. J'ai écrit un album.
De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale.
De retour au micro avec le segment Espresso allongé, le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, le bon usage de la colère qui se poursuit.
Oui, alors j'ai pris ça sur... c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle ainsi, le bon usage de la colère. C'est sur le site Cairn. C-A-I-R-N, j'espère que je prononce bien, point info. Alors, c'est écrit par un monsieur du nom de Salomon Nazielski, qui est psychologue belge et psychothérapeute en pratique privée et formateur de psychothérapeute. Alors, ce monsieur Nazielski nous dit que les politiciens et les chefs d'État ont tout intérêt à se montrer aux compétitions de football et à inviter les spectateurs à se joindre à eux dans des explosions émotionnelles de joie de la victoire. La catharsis émotionnelle et physique constitue le produit de ces combats physiques. Il s'agit bien d'une décharge par personne interposée, une illusion de décharge par le déplacement d'une cible qu'il eût fallu atteindre. De nombreux éléments existent dans notre culture et dans notre éducation qui concourent à nous démunir en ce qui concerne l'emploi constructif de la colère. On nous a en somme appris à nous démunir des moyens naturels d'avoir un impact correcteur sur notre milieu. On nous a ainsi invités à nous affaiblir et à nous rendre plus dépendants. La question n'est pas ici de savoir s'il y avait une telle intention dans l'esprit des philosophes ou des guides spirituels. Le résultat nous apparaît dans sa cruauté, c'est-à-dire nous sommes détournés dans nos efforts pour rendre notre monde plus aimant pour nous. Alors, ce monsieur Nazielski, tu vois que lui, il donne beaucoup de valeur, finalement, à la colère pour son côté constructif.
C'est ça, il la voit de façon positive, ce qu'on ne voit pas souvent. Hein.
Oui, il nous dit que la colère est un sentiment de base se manifestant par un mécontentement, une irritation, une exaspération et constitue une réaction à une situation jugée comme mauvaise d'une façon ou d'une autre. Elle fait donc, en principe, suite à une douleur, à une blessure, à une privation, à une honte, à une humiliation ou encore à une peur, notamment de perte d'objets d'amour. Elle permet de recruter l'énergie de la personne et la dispose ainsi à améliorer l'impact de ses actes sur le monde extérieur. Elle constitue ainsi un additif important à l'efficacité dans la résolution des problèmes ou dans la satisfaction des besoins. La colère peut être à la fois utile et efficace lorsqu'elle vise exclusivement des comportements chez autrui et nullement la personne. En résumé, la colère manifeste donc une reconnaissance de sa propre importance, de l'importance de l'autre, ainsi que du contrat qui les réunit. Elle doit donc être comprise comme un cri de douleur émis avec énergie. Interdire la colère reviendrait donc, dans une certaine mesure, à interdire de crier « aïe ». Ou au Québec, on dirait « aïe
aïe ». Quand on squeeze un doigt quelque part, qu'on se cogne avec un marteau.
Oui, hein? Exactement, ouais. Oui. Alors, l'importance de la colère est aussi, contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue, proportionnelle à l'amour que l'on a l'un pour l'autre et à l'amour qu'on veut recevoir de l'autre. Tu vois, il y a toujours l'amour est jamais loin.
Mais vu de même, c'est bien, parce qu'effectivement, quand des émotions très négatives, quand on ne les exprime pas, ils s'impriment, ça peut devenir néfaste physiquement ou mentalement.
Sûrement.
Je pense que de la canaliser comme ça, je trouve que c'est très bien.
Oui. Alors, M. Nazielski poursuit en nous disant, par contre, la colère ne définit ni ne contraint en rien un choix particulier d'action ou de comportement de par sa seule existence. En particulier, elle ne devrait en aucun cas servir de justification à l'abandon de sa responsabilité. Elle n'excuse donc en aucune manière la violence. À ce stade, il n'est pas inutile de rappeler que la violence physique, qui représente le désir de détruire ou de tuer l'autre, traduirait le contraire de l'amour pour cet autre et le contraire de la recherche d'un plus grand amour de l'autre pour soi. La violence est donc l'inverse de ce que vise la colère. Le parent en colère s'indigne des injustices, des lâchetés, des immoralités, des perjures ou des trahisons. Cette colère se manifeste légitimement lorsqu'il est témoin d'abus de la force physique, par exemple, à l'égard d'enfants ou témoin d'abus sexuels. Elle peut aussi vouloir signifier un non-conformisme en regard des normes, des règles et des conventions. L'adulte en colère réagit à des erreurs de raisonnement, à des négligences ou à des retards dans les tâches à accomplir, mais aussi à la désinformation, à la mauvaise foi ou à des comportements manipulateurs. L'enfant en colère s'attache à un sentiment d'être étiqueté, dépossédé, méconnu, redéfini par la moquerie, par exemple, ou pire, d'être blessé, insulté, s'entendre accusé injustement de mensonges ou de délits non commis, surtout si cela vient d'une personne aimée ou importante, ou encore d'être l'objet de dépossession, de discrimination, de ségrégation, d'exclusion ou d'abus. En résumé, la colère du parent est de nature éthique et se manifeste par l'application de sanctions convenues, et elle s'exprime sur un ton posé et articulé, tandis que la colère de l'enfant est par nature plus réactive. Elle procède de l'irritation ou de la vengeance et dans cette mesure est plus imprévisible et moins bien ciblée. Finalement, en conclusion, nous dit M. Nazielski, si la colère est un sentiment positif à utiliser avec justesse, c'est même une voie royale pour être considéré, apprécié et aimé.
Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet, le bon usage de la colère.
Je suis à l'hôpital et puis je n'ai pas mal, mais c'est pur parce que c'est ma tête qui essaie de fuir mon être. Une sorte de peine dans mon crâne qui comporte ses up and down. Mon âme ressemble au mur de ma chambre. Y'aurait pu se forcer sur le décor. D'après moi, ils ont cru que j'étais mort. Ou peut-être juste assez avec pour me contenter de ces meubles. Mon infirmière vient faire la lumière. Quand elle diminue ma dose, je sens plus la psychose. Mais quand je remonte la pente, je me souviens plus de grand chose. À cause du noise que provoque ma pilule. Ma maladie mentale, est-ce que c'est pas génial? Si j'avais eu mal dans le pied, on aurait pu me le couper. Mais là, c'est que la bête, elle vit dans ma tête. Puis ça, on peut pas me l'amputer. Puis c'est vrai ça qui me fait chier. J'ai des pertes de mémoire, je t'embobette dans le couloir. J'en profite pour saluer les gens avec mon saluté. Puis ma garde malade, regarde ma parade quand je pleure devant ma sœur parce que j'ai peur de mon docteur. À ce cœur que mon cœur n'est plus à la hauteur. Toute ma famille s'est réunie aujourd'hui et elle fourmille à l'entour de mon lit. Y'a du monde que je reconnais plus. Les secondes me retournent dessus. Un de mes bons amis m'appelle pour prendre mes nouvelles. J'y réponds, j'ai dit pardon. Pourrais-tu me dire c'est quoi ton nom? C'est con et c'est long dans ma dimension. Ma maladie mentale, est-ce que c'est pas génial? Si j'avais eu mal dans le pied, on aurait pu me le couper. Mais là, c'est que la bête, elle vit dans ma tête. Puis ça, on peut pas me l'amputer. Puis c'est drette ça qui me fait chier. Je suis à l'hôpital, et puis je n'ai pas mal, mais...
Vous aimeriez réentendre nos émissions? Entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Avant de terminer ce rendez-vous, deux fois les douces, on va y aller avec la nomenclature des chansons, Pierre, qu'on a entendues dans l'émission.
Oui.
La première, Maintenant ou jamais?
De Évelyne Brochu.
Plus humain?
de Vivien.
Dans la deuxième partie de l'émission, Fou
de Zélie.
Et à l'instant, Ma maladie mentale, pardon.
Oui, de Émile Bilodeau.
Merci beaucoup pour ce choix musical et pour ton travail en régie comme à chaque semaine.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci aussi pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé où tu nous as parlé du bon usage de la colère. Merci à notre invité en début d'émission, Cyrielle Richard, qui nous a mieux fait connaître le TDAH de l'enfance à l'âge adulte. On a appris des choses beaucoup sur la question. Merci d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous a apporté sa chronique « Comment vas-tu, bébé? » C'était donc l'émission Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.